Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
C'est Anne-Laure pour RVM. Je suis au parc Jean-Jacques Rousseau et c'est la seconde partie de ce reportage que j'ai fait autour des zones humides et également de la relation homme et nature. Est-ce que l'homme fait partie de la nature ou pas? Et également de la philosophie autour de cette relation homme-nature.
Dans quel monde on a envie de vivre? Quelle place on laisse à cette nature? Mais justement, c'est quoi la définition de la nature pour vous?
Ici, par exemple, autour de nous... Vous metteriez quoi dans la nature?
Tout.
Nous aussi. Qu'est-ce qui appartient à la nature?
On appartient à la nature, en point barre. Hein.
Vercors.
On en fait partie. Donc, c'est à nous de nous adapter et pas l'inverse comme c'est le cas depuis des années. C'est pour ça qu'on en est là d'ailleurs.
Oui. Ouais. Et est-ce que vous nous mettez, nous, dans la nature?
Oui.
On fait partie.
Aujourd'hui, on revient à cette notion, on fait partie d'un tout. Mais ce n'était pas du tout évident.
Une évidence.
Et effectivement, dès Aristote, Platon, dès qu'on a parlé de nature, à partir du moment où on a nommé la nature, je me demande si c'est pas été l'acte justement de soustraction de la nature. C'est-à-dire à partir du moment où on l'a nommé, on s'en est extrait.
Bien sûr, on a fait une différence.
C'est ça. Alors qu'il y a beaucoup de religions où le mot nature n'existe pas et où finalement l'homme considère qu'il fait partie d'un tout. Donc nous, à la nommant, on s'est peut-être extrait d'elle-même. Puis après, pour expliquer notre domination... Alors on a
oui, c'est ce que je voulais dire. Pour certains, c'est peut-être aussi le côté... Il faut dominer la nature aussi. Quoi.
Oui, oui. D'ailleurs, je me demande si la femme peut encore faire partie de la nature. Je ne sais pas.
Surtout avec une majorité de femmes dans le groupe, c'est risqué quand même.
Ouais, puis je suis pas bien vaillant.
Moi, je pense qu'un jour la nature va se rebeller et l'homme disparaîtra.
Elle se rebelle.
Si on continue comme actuellement.
En fait, la nature, elle va pas se rebeller. La nature, elle est la nature. C'est nous qui ne savons plus en profiter correctement. C'est vraiment ça. Parce qu'a priori, tout l'intérêt qu'on a à préserver cette nature, c'est qu'elle nous apporte des services. Imaginez un monde, que ça aille plus vite, qu'il n'y ait plus de pétrole. On sera bien content de retrouver tous ces matériaux un peu naturels. Et même économiquement, si ça se trouve, un jour, il sera plus avantageux de réutiliser ces matériaux naturels que tous les matériaux dérivés qu'on utilise aujourd'hui. On ne sait pas.
Pour moi, ce n'est pas une prise de conscience mondiale.
Ah ben non, pas encore.
Donc, je pense que la politique, elle va empêcher tout ça.
Alors, évidemment, l'idéal, je pense, c'est de préserver un maximum de nature. Donc, il y a une définition de la nature, notamment du patrimoine naturel, que je cite souvent, qui est de Bertrand Yal, qui dit que la nature, c'est là où il y a des éléments de patrimoine naturel, des éléments de nature. Or, ça va partout sur Terre. Il y a toujours au moins quelques éléments. Même dans les champs de céréales particulièrement traités, on retrouve 2-3 espèces, mais il y a toujours un peu d'éléments naturels. Mais par contre, il y a un vrai gradient. Et le gradient, il dépend de la pression de l'homme. C'est-à-dire qu'on considère que plus c'est naturel, moins l'homme intervient. Mais effectivement, après, on met le curseur où on veut. Donc, c'est pas très facile à utiliser, le terme de nature. Quelle place on laisse à la nature dans notre environnement, parce que c'est véritablement ça, alors qu'on voit qu'on est déjà dans une sixième extinction, qu'on va avoir besoin de la nature pour s'adapter au dérèglement climatique. Toute la question, c'est quelle place on lui laisse? Est-ce que c'est 10%, 20%? Aujourd'hui, vous voyez, ce qu'on entend, c'est 10% de protection forte, 30% globalement. Ça dépend comment c'est organisé et est-ce que c'est véritablement de la nature. Donc aujourd'hui, on est dans ce débat-là, mais effectivement, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une économie, des modes de vie où on serait beaucoup plus en symbiose avec la nature. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis là, où la nature pourrait être quasiment à couvrir 100%. voilà. Il y a 15 ans, on parlait quasiment pas d'agroécologie. Maintenant, on en parle. Donc moi, j'ai vu en 30 ans les évolutions. Vous voyez le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France. En 1989, il préservait moins d'une dizaine d'espaces naturels. Aujourd'hui, avec la fusion Picardie et Nord-Pas-de-Calais, on est à 450 espaces naturels préservés. Donc l'effort est encore insuffisant, mais on peut dire que les choses évoluent. Ça fait que quelques années que les structures GEMA, les organismes de gestion des milieux aquatiques, et souvent des rivières et des zones humides, existent véritablement. Et là, on voit aussi des prises de conscience, une volonté de restaurer les milieux, de remettre les rivières dans leur fond de vallée. Donc il y a des choses qui vont changer. Personne ne sait si ça ira assez vite. Le tout, c'est quand même de commencer. Et là-dessus, c'est quand même intéressant de voir que l'Union européenne est en avance, même si elle est aussi en avance dans la destruction. Mais même maintenant, elle est en avance dans cette prise de conscience. Et je pense qu'il y a des choses qui vont disparaître, mais peut-être qu'on a encore le temps de sauver l'essentiel. Et c'est ça qui est important, parce que, moi je dis toujours, sauver un maximum de biodiversité, c'est sauver un maximum de futurs possibles. Et c'est aussi ça qui est important pour la génération future. L'homme est une espèce terriblement résistante. Hein. Elle vit dans les déserts, elle vit sur les glaces, presque avec rien. Donc je pense qu'elle est capable de vivre avec 80% de la nature disparue, dénaturée, avec 80% des espèces parties. Mais dans quelles conditions? C'est-à-dire que mode de vie est souvent plus sympa en Crète qu'au milieu du désert du Kalahari. Donc si on veut encore qu'il y ait des milieux comme la Crète ou chez nous tempérés, bah, faut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour cela. Donc c'est la prise de conscience et puis effectivement après l'action, mais il y a plein d'actions encore possibles. Jean-Jacques Rousseau parlait aussi du bon sauvage, et d'ailleurs il a parlé du bon sauvage au moment de l'ère industrielle. C'est pas à n'importe quel moment, c'est-à-dire au moment où on croyait tout maîtriser, et ben on redit finalement le bon sauvage, c'est celui qui est bien intégré à la nature, comme s'il sous-entendait que l'homme bon était justement dans l'état de nature, l'état originel, c'était bien celui qui était en équilibre avec la nature et pas celui qui cherchait à la dominer. Et vous avez parmi ces réflexions philosophiques récemment aussi des auteurs qui reparlent de liens homme-nature, du lien homme-animal, qui dit qu'il faut réinventer ce lien-là. Voilà. Par exemple, les choses évoluent. Dans son dernier livre, il dit qu'aujourd'hui, on n'accepterait plus d'être gouverné par un roi d'ordre divin, alors qu'avant, c'était normal. Donc pourquoi pas demain ne plus accepter du tout que la société détruise des zones humides ou impacte ce qui reste de la biodiversité. En fait, c'est vraiment une question de valeur, une question de choix. Et c'est les citoyens, comme on est en démocratie, on a encore le choix. Là-dessus, il y a eu quand même aujourd'hui pas mal d'études. C'est les États qui ont vraiment la main. C'est-à-dire que nous, par rapport au dérèglement climatique, mais c'est encore plus vrai par rapport à la nature, par rapport au dérèglement climatique, si on faisait un maximum de tous les gestes qu'on connaît aujourd'hui, les éco-gestes, etc., nous, on arriverait à modifier les choses de 10% à peu près. Alors que la décision politique, elle est suffisamment radicale. Donc c'est notre rôle de citoyen politique. C'est en votant qu'on apporte le plus d'action.
Peut-être en consommant.
Ça, c'est vrai aussi. Et pour l'eau, par exemple, effectivement, l'eau qu'on a économisée, c'est effectivement l'eau qu'on laisse le plus à la nature, mais aussi aux autres activités humaines. Moi, je crois aussi à la vertu de la sobriété. Donc, tout ça, c'est une histoire, effectivement, de revalorisation de certaines choses par rapport à d'autres. Et je pense, il y a quelques modèles qui existent, qu'on peut refinanciariser des choses qu'on considérait comme sans valeur et peut-être diminuer la valeur financière de choses qu'on considère absolument indispensables et qui ne le deviendraient plus, du coup. Il y a plein de possibilités, ce qui fait que moi, je reste effectivement optimiste malgré, évidemment, le diagnostic actuel, il paraît réjouissant.
C'était Anne-Laure pour RVM et c'était la seconde partie de mon reportage au parc Jean-Jacques Rousseau avec Emmanuel Dasgrassas du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France qui nous a parlé des zones humides et dans cette seconde partie notamment de la relation homme-nature et des philosophies autour de cette relation. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.